Merci d'écouter RDWA, rdwa.fr, 107.5 FM. Il est 18h et c'est l'heure de Cinéma Cinéma.
Cinéma, cinéma de Saint-Antoine, film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma.
Un numéro de Cinéma Cinéma un petit peu particulier cette semaine. D'habitude, je vous parle d'un réalisateur, d'un film ou d'un genre cinématographique particulier. Cette semaine, alors qu'on est en plein Festival de Cannes et que le festival touche à sa fin ce week-end, j'avais envie de vous parler du festival et de la petite expérience que j'en ai. Le Festival de Cannes, j'y suis allé une fois, en 2014. J'y allais pour essayer de rencontrer des gens, des producteurs, des diffuseurs qui pouvaient m'aider à accompagner le projet d'un long métrage qui est toujours actuellement en écriture. J'étais accompagné pour ça par la Maison des Scénaristes, qui est un organisme qui aide les jeunes auteurs justement à rencontrer les gens qui leur permettent de développer leur projet. Je vous avoue que l'expérience a été un petit peu particulière. J'ai été assez déçu par le festival et par les côtés pénibles que j'imaginais mais que je ne pensais pas aussi présents. Pourtant, l'ambiance des festivals, je la connais, j'en ai fait quelques-uns, principalement des festivals de courts-métrages qui sont par nature plus détendus que le Festival de Cannes. Mais c'est quelque chose à laquelle j'étais habitué. Mais Cannes, c'est particulier. Tout le côté bling-bling qu'on peut voir à la télé avec les stars, tout est décuplé quand on est sur le festival. Et c'est vrai que ça peut être assez vite dérangeant, et en tout cas, moi, ça m'a dérangé. Et ça m'a permis une prise de conscience, la prise de conscience que oui, effectivement, j'avais envie de faire du cinéma. Oui, j'avais envie de raconter des films, j'avais envie de raconter des histoires, que ce soit en court, en long, en fiction ou en documentaire. Mais j'avais surtout envie de me mettre un petit peu en marge de cette industrie et de la façon dont elle se comporte, de la façon dont elle vit entre elles. Cette année-là, je suis arrivé à Cannes, donc en plein milieu du festival pour la deuxième semaine de la quinzaine. À mon arrivée sur Cannes, j'ai rejoint la Maison des Scénaristes, puis je suis allé sur le site du festival, au palais. Et j'ai été frappé par plusieurs choses en arrivant sur le site. Déjà, à quelque chose d'assez rigolo, c'était le parterre d'escabeaux qui est situé juste devant les marches et le tapis rouge. À la télé, on ne voit que les stars et le tapis rouge, mais il faut savoir que devant, sur la croisette, il y a un nombre incalculable d'escabeaux qui sont posés en permanence, qui font assez moche dans le décor d'ailleurs, et qui servent simplement à ce que les photographes et les passants puissent monter et prendre les photos des stars qui montent les marches. Une autre chose qui m'a marqué, c'est la volonté des gens de vouloir absolument s'intégrer dans ce système de stars et de paillettes et de vouloir vivre son petit quart d'heure de gloire en montant sur le tapis rouge. La grande salle du palais du festival, c'est une salle de cinéma, grande certes, mais qui a une capacité limitée. Et pour y accéder, il y a évidemment des accréditations qui permettent d'avoir un accès plus ou moins direct à la salle, suivant qu'on est dans l'équipe des films projetés, simplement des professionnels ou bien des journalistes. Il peut rester également quelques places disponibles pour le public, mais c'est pas évident. On a donc devant le palais du festival toute une ribambelle de gens habillés en robe de soirée et en smoking, parce que le tapis rouge n'est ouvert qu'aux gens habillés en tenue de soirée et en smoking, et qui attendent des places en écrivant le nom du prochain film projeté sur des petits panneaux en carton. Et au début, je me disais que c'était simplement des gens qui voulaient absolument voir les films... qu'ils écrivaient sur leur panneau, mais je me suis rendu compte que dès que la projection commençait et qu'ils n'avaient pas pu obtenir leur billet, ils rangeaient leur panneau et en sortaient un autre avec le nom du film suivant. La preuve qu'ils voulaient juste en fait monter les marches, se faire prendre en photo avec les stars devant les journalistes, mais que le cinéma quelque part passait au second plan, c'est quelque chose qui m'avait quand même pas mal dérangé. Donc moi, c'était mon premier soir à Cannes. Voilà, j'avais posé mes valises, j'étais habillé comme je suis habillé tous les jours, et j'avais évidemment pas de billet pour les projections du soir même. Donc j'ai passé ma soirée, voilà, à me promener sur la croisette. J'ai dû manger une glace, boire une bière, extrêmement chère. Et puis j'ai croisé des tas de gens, alors des gens connus, des gens qu'on voit à la télé, des gens qui n'ont pas grand-chose forcément à voir avec le milieu du cinéma d'ailleurs. Je me souviens avoir croisé les frères Bogdanov qui faisaient des photos avec les passants. Et puis également tout plein de gens qui ne sont pas des gens connus, mais qui pour l'occasion du festival sont habillés en robe de soirée, sont là pour faire des photos, sont là pour se montrer. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, peut-être des pubs pour des grandes marques ou quoi, mais voilà, c'est vraiment une ambiance très particulière avec des morceaux de plage privatisés par les grandes marques, avec des barrières partout, des interdictions de passer. C'est assez anxiogène en fait, et j'ai pas du tout aimé cette ambiance. Au final, j'ai passé ma soirée et puis le lendemain matin, je me suis dit, bon, je suis à Cannes, je suis au festival, je vais quand même essayer de voir des films. Je suis donc allé à la billetterie, on m'a demandé mon accréditation, j'ai donné mon accréditation, on m'a dit que j'étais sur la dernière liste, que j'étais pas sûr d'avoir des places, qu'il fallait que je revienne un petit peu plus tard quand les listes prioritaires seraient passées. J'ai finalement pu voir deux films. Un film coréen dont je vous avoue j'ai oublié le titre et qui ne m'avait pas marqué plus que ça. Et j'ai également vu Deux jours, une nuit des Frères Dardenne qui étaient en sélection cette année-là, qui m'avait plu, mais sans plus, je trouvais que les Frères Dardenne avaient déjà été plus inspirés. Le film était vraiment très mécanique. L'histoire, le scénario, l'idée de départ était bonne avec ce personnage qui a un week-end pour convaincre ses collègues de lui permettre de garder son travail. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passait pas dans le film au bout d'une heure. On a envie que ça aille plus loin, on a envie que les histoires s'entrecroisent plutôt qu'une série de confrontations avec des personnages types. Voilà, j'étais un petit peu déçu pour le coup de ce film des Dardenne, alors que j'avais adoré d'autres films comme Rosetta ou L'Enfant. L'Enfant qui avait été primé d'ailleurs à Cannes quelques années auparavant. Au final, je n'ai pu donc voir que deux films. Je me suis fait spoiler le film Momie de Xavier Dolan qui était en projection cette année-là par un des autres jeunes auteurs qui étaient présents à la Maison des Scénaristes. Et mon festival, je l'ai surtout vécu au Short Film Corner. Alors le Short Film Corner, pardon, c'est un endroit qui est situé au sous-sol du Palais des Festivals, un petit peu dans un coin. C'est le lieu du court-métrage. Alors, dans ce lieu, on peut voir tous les courts-métrages qui ont été soumis au Festival de Cannes, ceux qui sont sélectionnés, il doit y en avoir une quinzaine de mémoire qui sont en sélection officielle, et également tous ceux qui ont candidaté, qui sont disponibles sur une plateforme et qu'on peut aller voir sur des ordinateurs. Donc j'ai vu pas mal de films comme ça, des très bons d'ailleurs. J'ai eu la chance, un petit peu par hasard, de voir celui en compétition qui allait recevoir le prix de la compétition court-métrage quelques jours plus tard, qui s'appelait Lady, qui était un film brésilien, si je me rappelle bien, et qui était vraiment un très très beau film sur la vie dans les favelas. Et puis le Short Film Corner, c'est un petit peu l'endroit un peu plus détendu du Festival de Cannes où on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on peut trouver sur les festivals de cours comme Clermont-Ferrand, avec des gens qui sont là parce qu'ils sont passionnés de cinéma, parce qu'ils ont envie d'en parler, parce qu'ils ont envie de montrer les choses qu'ils ont pu faire avant, et parce qu'ils ont envie d'échanger avec des gens qui, comme eux, essayent de faire des films, essayent de trouver des financements, essayent de raconter des histoires. Et au final, c'est peut-être le seul endroit un petit peu humain que j'ai pu retrouver sur le site du festival. Bon. Je me rends compte que je vous ai dressé un portrait pas forcément très rose du festival. Alors, je vous rassure, il y a quand même de très très belles choses au festival de Cannes. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques minutes. Vous êtes toujours sur RDWA, RDWA.fr, 107.5 FM, et vous écoutez toujours Cinéma Cinéma. Le Festival de Cannes est donc un lieu que je ne recommande à personne, vous l'aurez compris, en ce qui concerne les relations humaines et le milieu du cinéma et tout le bling-bling qui peut régner autour, ou ce genre de choses, tous les gens aussi qui essayent de manger un petit peu sur le dos de la bête. Mais pour autant, le Festival de Cannes reste un festival de cinéma, et reste un beau festival de cinéma, puisqu'on peut y voir, à mon sens, de beaux films. C'est surtout un festival qui prime encore des films qui, moi, me touchent. Et c'est un paradoxe de ce festival. Oui, il y a les Ferrari. Oui, il y a Dior et Chanel sur la plage. Oui, il y a les soirées de jet set. Oui, il y a les yachts. Oui, il y a les hélicoptères. Oui, il y a les tapis rouges. Mais si on regarde le palmarès du Festival de Cannes, eh bien, on se rend compte que ce sont souvent des films engagés qui remportent des prix. Des films qui racontent des choses. Des films qui parlent des gens. On peut voir que notamment Ken Loach y a été primé deux fois. La dernière fois l'année dernière avec I, Daniel Blake, qui est un film sur un homme empêché de travailler après un accident cardiaque, mais qui se retrouve obligé quand même de chercher un emploi et qui est confronté à l'absurdité du système de Pôle emploi en Angleterre. On se rend compte également que les frères Dardenne ont été primés deux fois avec des films comme L'Enfant, qui sont quand même des films forts, des films engagés, des films qui touchent au cœur. Et puis d'autres réalisateurs, les premiers qui me viennent à l'esprit sont Wim Wenders, bien sûr, avec son film Paris, Texas, qui est peut-être le film que j'ai préféré dans ma vie. Et puis aussi d'autres prix, pas forcément la Palme d'Or. La Caméra d'Or, il y a quelques années, l'année où j'étais au festival, avait été remise à Party Girl de Claire Burget, qui avait déjà obtenu le Grand Prix à Clermont-Ferrand pour son film Forbach. C'est un film qui m'avait touché particulièrement parce que tourné à Forbach, tout comme le court-métrage, et qui mettait en scène des gens que je croisais tous les jours. À Forbach, c'était pas très loin de chez moi, j'habitais à Metz à ce moment-là, j'ai vécu à Metz pendant une dizaine d'années, et voilà, je connaissais la situation de Forbach, les personnages du film, je les croisais. J'avais grandi à Sedan, une ville qui est comparable à Forbach d'un point de vue social. Donc ces films... Donc voilà, le Festival de Cannes a vraiment ce paradoxe, le fait d'être un festival peut-être le plus bling-bling du monde, avec tout ce que ça a de plus détestable, en tout cas de tout ce que moi je déteste, et puis de l'autre côté, des beaux films qui sont primés, des réalisateurs engagés qui sont récompensés, des films qui méritent d'être vus et qui ont encore cette vitrine-là, qui ont la chance d'avoir cette vitrine-là, avec une sélection de qualité, ce que je pense que les gens qui font la sélection des films du Festival de Cannes font vraiment un travail de qualité et vraiment une prime aux beaux films, les films qui racontent quelque chose, les films qui racontent les gens. Et ça, j'arrive pas bien à me l'expliquer, en fait. Pourquoi c'est dans ce lieu-là que ces films-là sont primés? Je sais pas pourquoi, mais quelque part, je suis content que ce soit le cas. Je pense aussi à un film comme La loi du marché, qui avait reçu le prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon il y a 2 ans, je crois. Et qui est un film voilà, assez terrible, qui raconte l'histoire d'un homme qui retrouve un emploi, qui est heureux de retrouver un emploi après des mois de galère et les difficultés que ça engendre, et qui se retrouve à vigile dans un supermarché, à devoir fliquer les gens avec qui il travaille, et qui ne supporte pas ça, et qui se rend compte que oui, effectivement, il a retrouvé un emploi, mais son emploi consiste à détruire la vie des gens avec qui il va travailler. Et qui ne supporte pas ça. Et c'est pareil, c'est un film qui moi m'avait touché, et c'est un film qui a su convaincre le jury du festival. Et je trouve ça bien. Surtout dans la période actuelle, avec tout ce qu'on entend sur la volonté de réforme du code du travail, de flexibilité, de ce genre de choses, de toujours pousser les gens à la concurrence, de toujours les pousser à vouloir prendre la place de son voisin, en fait. Et il faut que les festivals de cinéma suivent ce chemin-là, et si le Festival de Cannes a une qualité, c'est celle-là, à mon sens en tout cas. Une nouvelle petite pause musicale et je vous parle de la sélection du festival de cette année, de ce que j'en sais, de ce que j'en attends, de ce que j'en attends pas aussi, et des petites curiosités que j'ai envie de voir.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités que la télé déblatère, et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais des 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie, où est frappé l'épopée. Des impies accro à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère. Mon territoire ne va nulle part, normal, je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi. Et les vieilles pies que ça doit emmerder peuvent me regarder. Je me tape des ondis, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes. Quand sur mon barème, c'est le mot haine qui s'imprime. C'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes. Quand son programme ne me vend que drame et déprime. Vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne en panne héritée. N'est pas dans ma nature, laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité.
Écoutez toujours RDWA, RDWA.fr, 107.5 FM. Je vous parle toujours du Festival de Cannes et on va s'attarder un petit peu plus, on va essayer en tout cas de s'attarder un petit peu plus à la sélection de cette année et à ce que je peux savoir des autres compétitions également, pas uniquement la sélection officielle. Alors, je vous avoue que pour la sélection de cette année, je ne connais pas beaucoup de réalisateurs qui sont prévus. Bon, je connais évidemment les principaux avec Michael Haneke qui présente Happy End. Michael Haneke qui a été plusieurs fois récompensé au Festival de Cannes par une Palme d'Or. Il y a également Michel Hazanavicius qui présente Le Redoutable sur Jean-Luc Godard, avec Louis Garrel. François Ozon présente également L'Amant Double. Personnellement, c'est pas forcément un réalisateur qui me touche beaucoup, mais voilà, il a son public et le film mérite certainement d'être vu. Il y a également Jacques Doyon qui présente Rodin avec dans le rôle du sculpteur Vincent Lindon. Mais il y a surtout deux films qui ont retenu mon attention. Le premier, je n'en avais pas entendu parler avant le festival. C'est le film qui s'appelle 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors, je ne sais pas grand-chose de ce film, mais il a retenu mon attention parce que son équipe a tenu, en montant les marches, à alerter sur ce qui se passe actuellement en Tchétchénie par rapport aux homosexuels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, les homosexuels sont persécutés en Tchétchénie. Ils sont traqués, ils sont poussés au suicide, ils sont torturés, ils sont arrêtés. On appelle leur famille à les assassiner pour laver leur honneur. Et c'était important qu'un film comme ça, dans une vitrine comme le Festival de Cannes, qui parle au monde entier, puisse avoir ce message-là qui ne fera pas bouger les lignes à lui tout seul, mais qui en tout cas permet d'éveiller les consciences. Et je reste toujours persuadé que le cinéma a aussi cette fonction-là, comme la musique, comme tous les arts, c'est-à-dire que des personnes, à un moment, ont le micro, ont la possibilité de dire quelque chose. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas qu'elles se cachent. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à montrer, s'il y a des choses à dénoncer, il faut profiter d'avoir justement ce micro et d'avoir la parole pour ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, je suis pressé de voir 120 battements par minute et je suis heureux de voir que son équipe a eu cette action et j'aurais aimé que les équipes d'autres films aient également ce genre d'action militante pour ce qui se passe actuellement à quelques kilomètres de chez nous. L'autre film qui a retenu mon attention, c'est pour le coup réellement pour des raisons cinématographiques. 120 battements par minute est certainement un très bon film, mais je ne pourrais pas en dire grand-chose, je ne l'ai pas vu et je ne connais pas le réalisateur. Cet autre film, c'est donc Les Proies de Sofia Coppola. Alors pourquoi ce film m'intéresse particulièrement? Simplement parce que j'adore Sofia Coppola. J'adore Sofia Coppola depuis son premier film, Virgin Suicide, qui était sorti de mémoire en 1999, et qui présentait cinq sœurs en proie à la mélancolie adolescente, portée par la musique du duo français R. Et j'avais trouvé ce film vraiment beau, vraiment touchant, vraiment réussi à tout point de vue. Et j'attendais avec impatience la suite. Alors, la suite, il y a eu Marie-Antoinette, qui est un beau film, même si c'est pas celui de Sofia Coppola qui m'a forcément le plus touché. Mais surtout, entre les deux, il y a eu Lost in Translation. Lost in Translation, j'ai dit tout à l'heure que Paris, Texas, c'était mon film préféré. J'hésite encore, c'est peut-être quand même Lost in Translation. Lost in Translation, c'est cet instant suspendu en plein cœur de Tokyo, une ville qui grouille, une ville pleine de néons, une ville pleine de voitures, une ville pleine de klaxons, une ville qui fourmille. Mais une ville où il y a cet hôtel où vivent pour quelques jours un acteur un petit peu sur le retour, interprété par Bill Murray, qui est là pour faire une pub pour un whisky et prendre son cachet et fuir sa femme. Et de l'autre côté, il y a Charlotte, jouée par Scarlett Johansson, et qui accompagne son mari, photographe un peu branchouille, un peu ringard aussi, de mon point de vue. Bref, les deux s'ennuient énormément dans cet hôtel. Ils n'arrivent pas vraiment à se remettre du décalage horaire en plus. Et ils se retrouvent le plus souvent la nuit, au début au bar. Ils font du bien tous les deux à s'écouter. Vraiment un film sur les discussions, sur l'ennui. Et Sofia Coppola filme extrêmement bien l'ennui. Leur relation va se développer tout au long du film. Ils vont sortir un petit peu en ville, découvrir Tokyo, découvrir la folie, découvrir la folie de Tokyo, découvrir les salles de jeux vidéo, découvrir les clubs, découvrir le karaoké, des choses complètement improbables. Et puis quelques parenthèses, comme quand Scarlett Johansson s'éloigne de Tokyo quelque temps pour aller s'enfoncer un petit peu dans le Japon un peu plus rural. C'est vraiment un film qui me touche particulièrement. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, simplement qu'il est beau. Et je pense qu'il fait partie de ces films qui marquent dès le premier visionnage, quiconque les regarde. Je ne dis pas que tout le monde adorera forcément ce film, mais tout le monde gardera un souvenir précis de ce film. C'est un instant de cinéma un petit peu magique. Personnellement, je regrette de ne pas l'avoir vu en salle. Je ne l'ai découvert que plus tard en DVD. Et je pense qu'il fait vraiment partie de ces films qui méritent d'être vus sur un écran de cinéma. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur la petite polémique qu'il y a eu en ce début de Festival de Cannes et qui continue d'agiter un petit peu la croisette, comme on dit. C'est cette histoire de films produits par Netflix. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette mini-polémique, en fait, il y a deux films cette année en compétition à Cannes qui sont produits par Netflix. Netflix, c'est la plateforme de vidéo à la demande, le géant de la vidéo à la demande américain, et qui produit notamment des séries et qui produit également des films. Il y a donc deux films en sélection officielle à Cannes, et la polémique vient du fait que, étant donné que Netflix est le géant de la vidéo à la demande, donc sur Internet, eh bien ces films ne sortiront pas en salle. Et le Festival de Cannes est un festival de cinéma. Certains se posent donc la question de la légitimité de Netflix à présenter des films qui ne sortiront pas en salle et qui ne sont par conséquent pas des films de cinéma, mais des films d'Internet ou des films de télévision. Et c'est vraiment quelque chose d'à mon sens important. Effectivement, je regarde comme tout le monde des films à la télévision, je regarde comme tout le monde des films en VOD, mais le lieu du cinéma, ça reste la salle de cinéma, à mon sens. C'est une expérience particulière où on est dans le noir, où on est dans un lieu qui est vraiment dédié à ça, où on a vraiment un grand écran devant nous, on est en compagnie de gens qui sont là uniquement pour ça également. C'est un instant suspendu. C'est la démarche de regarder un film dans une salle de cinéma n'est pas la même que de le regarder à la télé. On sait qu'on va regarder un film et on sait qu'on va se couper pendant les 2 heures du film de toute autre perturbation, de toute autre distraction. Et les films qu'on voit en salle n'ont pas le même impact sur nous que les films qu'on voit, à mon sens, à la télévision ou sur Internet. Et pour ma part, alors certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'effectivement Netflix, d'autant plus de par sa position de géant de la VOD qui brasse des milliards et qui, à mon sens, ne fait pas forcément du bien à la production cinématographique et à sa diversité, je trouve que Netflix n'a pour le coup rien à faire dans un festival de cinéma, que ce soit le Festival de Cannes ou un autre. Ce qui ne veut pas dire que les productions de Netflix sont toutes mauvaises, celles-ci je ne les ai pas vues, elles sont peut-être très bonnes, mais voilà, il y a quelque chose ici qui on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre, on ne parle pas de la même chose. Netflix ne produit pas de cinéma, Netflix produit des films de télévision, des films d'Internet, mais ne produit pas de films de cinéma. Voilà, je ferme la parenthèse sur Netflix, chacun se fera son idée sur le rôle qu'a à jouer le géant de la VOD dans l'industrie du cinéma, et je vous laisse avec R pour un morceau tiré de la bande originale de Virgin Suicide, le film de Sofia Coppola. Vous êtes toujours sur RDWA.fr 107.5 FM et c'est la dernière partie de Cinéma Cinéma dédiée cette semaine au Festival de Cannes. Une dernière partie où je voudrais commencer par parler d'un film qui m'intéresse particulièrement, qui est le film de Hubert Charuel, Petit Paysan, qui est présenté cette année pour le concours de la Caméra d'Or. Alors ce film, il m'intéresse parce que Hubert Charuel, déjà, c'est un copain de copain, Et donc voilà, je connais un petit peu l'histoire de ce tournage. Et également parce que j'ai déjà vu le travail d'Hubert, notamment en court-métrage, puisque j'ai vu à Clermont-Ferrand, sur les précédentes années, deux films, deux très bons films d'Hubert Charuel, qui s'appelaient La Diagonale du Vide, que j'avais vu de mémoire, une sortie en 2012. Et le dernier en date, si je ne me trompe pas, moi qui en ai refait un entre-temps, mais je ne suis plus bien sûr, qui s'appelait Canada, ça s'écrit avec un K plus loin, Nada, et qui était vraiment deux films assez formidables. En général, c'est des films qui se passent en Haute-Marne, Hubert est originaire de Haute-Marne. C'est des films qui parlent du quotidien, qui parlent de choses vraies, qui parlent de choses qu'on connaît du quotidien, de tous les jours, qui moi, vous commencez à le savoir, me touchent particulièrement. Mais surtout, il a un humour particulier, il rajoute des tas d'éléments qui font sourire, qui font rire. Et je trouve vraiment que ce sont des films très très intéressants. Alors je suis vraiment curieux de savoir ce que ça peut donner en long métrage. Et je croise les doigts pour lui, pour qu'il fasse un beau festival, parce que je pense que c'est un cinéaste qui le mérite. Alors, la Diagonale du Vide et Canada, je pense qu'en cherchant un petit peu sur Internet, il est possible de les retrouver. Ils doivent être en ligne maintenant. Il faut chercher un petit peu. C'est des films qui étaient produits, si je ne me trompe pas, par la Fémis. Hubert Charuel est passé par la Fémis. Mais voilà, c'est le petit conseil court-métrage du jour. Essayez de retrouver La Diagonale du Vide et Canada. Et profiter du jeu d'acteur invraisemblable du cousin d'Hubert Charuel, qui n'est pas comédien, qui n'est pas comédien de formation, et qui est absolument incroyable dans ses films. Sinon, je vais vous donner mes petits conseils, comme à chaque émission, sur les films du Festival de Cannes. Alors, pas sur les films de cette année, mais sur les films anciennement primés. Je vous conseille donc, parmi les films qui ont reçu la Palme d'Or ou un autre prix, au Festival de Cannes, Paris, Texas, de Wim Wenders, primé en 1984, Barton Fink, des frères Cohen, primé en 1991, Pulp Fiction, de Tarantino, même si, à titre personnel, je ne suis pas fan de Tarantino, pour le coup, il a su faire mouche avec celui-ci, en 1994, Rosetta, des frères Dardenne, évidemment, en 1999, Dancer in the Dark, de Lars von Trier, en 2000, qui est, je pense, le seul Lars von Trier qui m'ait plu, réellement plu, Elephant en 2003 de Gus Van Sant, L'Enfant des frères Dardenne de nouveau en 2005, Le Vent se lève de Ken Loach en 2006, en 2016 Ken Loach avec I, Daniel Blake, ça c'était pour les Palmes d'Or, et puis donc les autres films récemment primés à Cannes qui m'avaient vraiment plu, il y avait, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Party Girl de Claire Burget, La Loi du Marché également avec Vincent Lindon, meilleur premier rôle masculin. Et puis, même si je sais que ça va faire hurler mon pote Badir, mais je lui passe le bonjour au passage, Mommy de Xavier Dolan, qui m'avait quand même beaucoup plu. Désolé vieux. Sur ces petits conseils de films, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Pour ma part, je vais la passer en terrasse avec une bière et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Cinéma Cinéma.
Thank you.